bonjour. En ce 21 septembre, nous allons célébrer des personnages à travers des millénaires. Nous allons tout d'abord commencer avec un personnage qui n'a pas existé, mais que j'aime beaucoup, puisque c'est Saint Jonas, qui est le héros de mon conte préféré, ce beau conte de la Bible. Quel beau conte, qui m'a toujours ému, qui m'émeut encore et qui me bouleverse à chaque fois que je le lis et le relis. Et j'aime invoquer Jonas, même s'il n'a jamais existé, dans le sens que, en pensant à lui, j'aspire à ce que je puisse imiter ce qu'il a fait. C'est aussi la fête de Saint Matthieu aujourd'hui, l'évangéliste Saint Matthieu. Beaucoup de gens s'appellent Matthieu, je les salue. Et enfin, je salue mon ancien confrère de Radio-Canada que j'aime beaucoup, Jean-Charles Desiel, car c'est la fête aussi de Saint Jean-Charles Cornet. Jean-Charles Desiel, qui a été longtemps réalisateur d'émissions de radio religieuses toute sa vie, bien qu'il soit avocat de profession. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je commence donc avec Saint Jonas, mais auparavant, je voudrais vous mentionner qu'hier, en parlant des martyrs coréens, je suis tombé sur un article la nuit dernière où on mentionnait qu'il y avait plusieurs millions de catholiques en Corée, dont des gens, comme j'avais dit hier, absolument remarquables, tant au niveau universitaire que de la recherche scientifique, dans le domaine littéraire et dans le domaine des questions sociales et de toutes sortes. Donc, Saint Jonas, prophète, dit-on, de l'Ancien Testament, considéré comme prophète par les musulmans. Si on entre, comme je l'espère vous l'avez déjà fait, dans la chapelle Sixtine, où j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois, on aperçoit, comme vous savez, le formidable jugement dernier de Michel-Ange. Qui n'a pas vu des reproductions, d'autant plus que le jugement dernier vient d'être complètement nettoyé, de même que la chapelle Sixtine, grâce à la générosité des Japonais, oui, des Japonais qui ont vu à ce qu'on nettoie la chapelle Sixtine qui était abîmée par les cierges, la fumée et la pollution à travers les siècles, et on a retrouvé des couleurs insoupçonnées. Et alors se dresse devant nous, quand on contemple le jugement dernier, le souvenir transposé, si on peut dire, du sac de Rome en 1527. Et on voit Ninive ravagée parce qu'elle n'a pas fait pénitence. Et qui est donc ce géant deux fois plus grand que le Christ qui domine la fresque? Eh bien, son nom est inscrit sous ses pieds dans une cartouche, une cartouche, vous savez ce que c'est? C'est un, oh mon Dieu, comme une espèce de morceau de ruban peint. On appelle ça une cartouche, je dis ça pour ceux qui l'ignoreraient. Et c'est écrit Jonas, en lettres majuscules, I-O-N-A-S. Et c'est bien notre Jonas qui est là. Et aussi bien, on voit à côté de lui un poisson effaré. Et ça laisse aucun doute. On sait que Jonas, dans le conte qui nous est raconté dans la Bible, très beau conte, s'est promené non pas à dos de poisson comme on fait aujourd'hui, ça se fait maintenant, n'est-ce pas, mais en dedans du poisson. Alors pourquoi lui donne-t-on cette place qui est au fond presque la place d'un président? C'est l'histoire de Jonas qui nous l'apprend. Hein? Dans le 4e livre des Rois, au chapitre 14, on raconte qu'un prophète, Jonas, fils d'Amittai, avait prédit à Jéroboam II, le roi d'Israël, qui est mort en 748 avant le Christ, qu'il rétablirait les anciennes frontières de son royaume. Or, ce Jonas était de Zabulon. Où est Zabulon? C'est à l'ouest du lac de Tibériade, ce lac où a été fondé le christianisme en Galilée, ce qu'on appelle aussi le lac de Génézareth, n'est-ce pas, le lac de Tibériade, c'est donc près de Tibérias, cette ville qui était encore chrétienne il y a quelques années, mais dont malheureusement les Israéliens ont extirpé tous les Palestiniens chrétiens catholiques et les ont enfermés dans un camp de concentration à Jéricho, afin de dégager les abords de ce très beau lac, et aussi parce qu'on craignait, dit-on, certains terrorismes qu'ils auraient pu commettre. Mais c'est bien triste quand on va à Tibérias aujourd'hui de voir ce que les Juifs en ont fait. C'est devenu une espèce de Miami, un Miami Beach abominable, à quelques kilomètres à peine de Capharnaüm, qui est le centre, le cœur de la naissance du christianisme, où l'on retrouve les traces non seulement du monde des béatitudes, où le Christ a proclamé les béatitudes, il a prononcé de nombreux sermons, où il a multiplié les pains, où on trouve aussi la maison de Saint-Pierre, où Jésus allait. Et quand on visite tout ça, à quelques kilomètres d'un véritable Miami, le cœur nous serre et ça fait très mal. Je le dis sans méchanceté à l'égard des Israéliens. Que voulez-vous? C'est l'histoire, c'est fait, c'est fait. Rien ne sert de se fâcher. Or, le livre de Jonas, parmi les petits prophètes, on appelle ça les petits prophètes dans la Bible, vous voyez, nous avons reçu des Juifs ce merveilleux conte. Et on peut le rendre grâce aux Juifs de nous l'avoir conservé et transmis, ce texte sacré. Le livre de Jonas met en scène donc un prophète du même nom, tandis que les autres livres prophétiques contiennent surtout des discours. Celui-ci, c'est le récit, un conte, le récit d'une mission de Jonas à Ninive. On pourrait intituler ce conte « Le prophète malgré lui ». C'est pour ça que je l'aime, ce prophète. Malgré lui, la miséricorde incorrigible de Yahvé aussi, on pourrait appeler ça comme ça. Yahvé souffre d'une grave maladie du cœur, si on peut dire. C'est une miséricorde incorrigible, il a le cœur trop grand, Yahvé. Yahvé commande à Jonas d'aller prêcher contre Ninive, la pécheresse. C'est pas facile d'aller prêcher. Imaginez si vous aviez la mission de prêcher contre Montréal. Il faudrait que vous veniez sur la place publique au coin de Peel et Sainte-Catherine, sur la place Saint-Denis, près du métro, là-bas, là, ou bien dans le Vieux-Port, et vous mettre à hurler et à crier avec des haut-parleurs que Montréal est une ville abominable et qu'il faut que les gens se convertissent. Mais le faire avec force et courage, vous feriez rire de vous et vous en auriez peur, ou du moins. Et moi le premier. En tous les cas, on ne nous dit pas où est Jonas dans le livre, mais il lui faudrait sans doute partir vers le nord-est. Il s'embarque à Jaffa. On dit Joppé, mais c'est Jaffa d'aujourd'hui. Et il se rend vers Tarsis, ce qui semble être en Espagne. Donc, il traverserait la Méditerranée en s'en allant vers l'ouest, pour fuir, pour ne pas aller à Ninive. Il veut vraiment fuir Yahvé et la mission extravagante qu'on lui demande. Mais il y a une tempête, et là, on tire, comme on dit, à la courte paille, c'est-à-dire que on prend des pailles dans une main et chacun doit en prendre une et celui qui prend la plus petite doit être jeté par-dessus bord pour libérer le bateau qui risque de couler parce que le poids est trop lourd, puis il n'y a plus de nourriture, alors on jette en bas celui qui a tiré la plus courte paille. Et Jonas se fait jeter à la mer, il est avalé par un grand poisson. Or, le texte nous raconte, et c'est bien sympathique, que dans ses entrailles, Ce poète qui est Jonas et qui est inspiré chante un beau cantique d'action de grâce. Hein? Je reviens toujours à mon texte du début de des préfaces. Vraiment, il est digne et salutaire de te rendre grâce toujours et en tout lieu, même dans le sein d'une baleine ou d'un monstre marin. Alors il est vomi finalement par le monstre après 3 jours et 3 nuits. C'est pour ça que Jésus se sert de cette histoire pour annoncer sa résurrection au 3e jour. Jonas, grâce à ce monstre, gagne Ninive, la grande ville, et il dit, à haute voix, devant tout le monde, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Or, le roi de Ninive et la population sont convaincus. Ils se laissent convaincre très rapidement, ce qui est plutôt surprenant. Il faut croire que Jonas était un très grand prédicateur. Alors, ils se convertissent. Et Dieu pardonne. Ninive ne sera pas détruite. Et Jonas, mécontent que son cataclysme qu'il a souhaité jusqu'au fond est raté, il se retire à l'orient de la ville. Et puis, Dieu fait pousser là un ricin pour jeter un peu d'ombre sur notre boudeur, pour le consoler, quoi. Mais un ver pique le ricin, et le ricin sèche. Il n'y a plus d'ombre, alors un vent brûlant s'élève et souffle, et le soleil tape, c'est la sécheresse. Alors Jonas souhaite la mort, comme Élie, dont on a parlé le 20 juillet dernier. Et Dieu lui répond doucement, voici ce que Dieu lui dit à Jonas. Oui, c'est toujours tout un conte, ça. C'est comme si je vous racontais l'histoire du petit chaperon rouge. « Tu t'affliges pour un ricin, Jonas, et moi je ne m'affligerai pas pour Ninive, la grande ville, » où il y a plus de 120 000 personnes qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche comme des enfants qu'ils sont. Et il y a là des animaux à foison. En somme, Dieu ne veut pas détruire. Dieu ne fait pas de telles choses. C'est une étonnante histoire, hein? Le merveilleux est accumulé dans cette histoire très naïvement par l'auteur. Il y a des gens qui tiennent à ce que cette histoire soit vraiment une histoire vraie. Mais ça tient pas debout, hein. Et le miracle ne leur fait pas peur à ces gens-là. Il y a une inconvenance, me semble, à interpréter cette histoire purement comme un conte. Moi, je dirais que c'est la moitié de l'un, c'est la moitié de l'autre. C'est une fable, oui, mais est-ce que ce ne serait pas d'après certains faits réels? Est-ce que ce n'est pas notre vie à chacun de nous? Tout jeune, on se sent appelé à faire des choses merveilleuses et on recule et on recule et on finit par s'asseoir et on ne fait rien. On est comme Jonas. Et nous prenons un bateau qui s'en va en Espagne, vers des châteaux en Espagne. On a peur. Moi, j'ai eu peur. Je me suis senti appelé très jeune et j'ai eu peur. Le texte de Jonas, c'est probablement tardif. C'est probablement postérieur à l'exil du peuple juif vers Babylone, vers le milieu du 5e siècle. Au temps d'Esdras et de Néhémie, il est fort peu vraisemblable que le Jonas du 8e siècle en soit l'auteur, car la langue ici trahit une époque récente, et on y parle de Ninive comme d'une cité disparue, alors qu'au 8e siècle, elle était à son apogée. Et nous serions donc en face d'un récit composé quelques 3 siècles après l'événement, ce qui est un peu inquiétant. Mais au lieu d'une histoire, si Jonas était plutôt, et c'est ce que je crois, un écrit pour nous enseigner quelque chose, et si ça a été classé parmi les prophètes, c'est qu'il y a là un enseignement, je dirais, doctrinal, un enseignement très, très, très sérieux, très important. Et l'élément miraculeux de ce récit, c'est pour attirer notre attention sur ce qui compte. Hein. Il y a un manque de proportion entre le moyen puis la fin. Il y a des invraisemblances, la plus forte, mais c'est la conversion subite, si on peut dire, du roi de Ninive et de tous les Ninivites. C'est la manière aussi plus ou moins schématique du récit. C'est un récit très schématique et très bref. Hein. C'est très court, vous savez, ça n'a que quelques 4 pages. Alors, ça nous invite à considérer ce récit comme une fiction. Cependant, il faut bien se rappeler que Jésus a présenté, comme je vous ai dit tout à l'heure, Jonas comme un signe de sa résurrection. On trouve ça dans Saint Matthieu, dont il sera question tout à l'heure, Saint Matthieu, au chapitre 12, verset 41, puis même au chapitre 16, verset 4, ainsi que dans Saint Luc, au chapitre 11, verset 29. Mais la comparaison que Jésus utilise n'implique pas forcément qu'il considère Jonas, avalé par un poisson, comme une réalité historique. Hein? D'ailleurs, les pères de l'Église, qui ont vécu il y a près de 2000 ans, ne sont pas tous des partisans de l'historicité de ce livre. Déjà, les pères de l'Église, au tout début de l'Église, hein, considéraient que c'était un conte. Et en somme, la question, c'est purement une question d'analyse de la Bible. C'est ce qu'on appelle, selon les papes récents, le genre littéraire. Il y a des genres littéraires dans la Bible, il y a des écrits. Je le dis pour ceux qui s'ignoreraient cela, qui sont jeunes ou qui n'ont pas entendu parler souvent de la Bible. Les autres peuvent se boucher les oreilles si ça les fatigue. Il y en a des gens qui me disent que j'explique des choses que tout le monde sait. Mais non, tout le monde ne les sait pas. Alors, il y a des genres littéraires, des romans, des poèmes, des livres historiques, des livres prophétiques, des histoires, des contes. Il y a toutes sortes de choses dans la Bible, hein? Des sentences, des suites de sentences, de dictons. Il y a toutes sortes de choses. Hein? Donc, il semble que le but de ce livre, c'est de faire éclater, écoutez-moi bien, là, c'est de faire éclater l'immense miséricorde de Dieu, qui s'étend même au pire des païens, comme les Ninivites. Or, c'est un livre qui s'adresse aux Juifs, et les Juifs étaient très conscients que ce message pour eux s'adressait à eux seuls, qu'ils ne devaient guère le partager avec les autres comme ils font encore aujourd'hui. Les Juifs referment le message sur eux-mêmes. Ils acceptent rarement des conversions, partagent peu leurs connaissances judaïques précises. Ils sont très conscients d'une élection profonde de leur peuple, aimé et chéri de Dieu. Mais ici, le message s'étend même au pire des païens, les pires des païens. C'est pleinement atteint d'ailleurs ce message, dans ce conte qui est pimenté, si on peut dire, de satire et d'humour. Et en retirant à l'ouvrage tout caractère historique, je crois qu'on enlève aux incroyants l'argument qu'il y a des miracles disproportionnés dans la Bible et que de la Bible, c'est un livre ridicule. Nous, croyants, nous ne croyons pas de façon aveugle tout ce qui est dit dans la Bible. On sait bien qu'il y a des contes, y compris dans la Genèse, et que les gens qui s'imaginent que nous, catholiques, nous qui avons fait des études en particulier universitaires, que les grands savants de ce monde qui se disent chrétiens et catholiques savent bien que dans la Bible, il y a des textes qui doivent être pris comme des contes. Il reste donc que Jonas, qui est signe du Christ, a connu une fortune extraordinaire dans l'art chrétien. On le voit avalé, craché par son monstre, en général une sorte de dragon hippocampe, ou qui se repose presque toujours nu sous l'ombrage d'un ricin, ce Jonas. C'est sans doute cette relation traditionnelle avec le Christ qui lui vaut sa place, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la place d'honneur dans le jugement dernier à la chapelle Sixtine. Dans des textes très anciens qui nous viennent de Constantinople, on commémore comme saint et illustre le prophète Jonas le 21 septembre, déjà il y a bien plus de 1000 ans, c'était à Constantinople, au cœur de l'Église d'Orient, au cœur de l'Église dite orthodoxe qui est séparée de nous, qui est dite, nous sommes dits catholiques. Le jour où nous serons orthodoxes, catholiques et catholiques orthodoxes unis ensemble, que nous serons heureux. Dans ce vieux texte de Constantinople, on dépeint Jonas comme étant chauve, chenu, les joues creuses. C'était le fils de la veuve ressuscitée par Élie, qu'il avait habité la terre de Sénéar en Babylonie, qu'on l'avait enterré dans la caverne de Sénézéen, qui est devenu juge au temps de l'anarchie. D'autre part, le pseudo-Épiphane parle de la terre de Sahar aussi. Saint Isidore de Séville, lui, il écrit « On montre le tombeau de Jonas dans un village des villes de Geth, qui est au second mille de Séphorim sur la route qui mène à Tibériade. » On retrouve Tibériade, mais ce sont des racontars, ça. Car Jonas n'a pas vraiment existé. Et Saint Jérôme signalait cette tombe et en notait une autre à Diospolis ou Lydda au sud-est de Jaffa. Les musulmans, eux, connaissent plusieurs tombeaux de Jonas, le prophète. Ils en ont plusieurs. J'espère que c'est pas tout le corps qui est dans chaque, mais peut-être simplement des éléments de son corps. Alors voilà pour Jonas et retenons. Jonas a été appelé par Dieu à aller, dirait-on aujourd'hui, évangéliser. Il a dit non. Il s'est enfui. Mais par un miracle subi, Dieu a envoyé un monstre pour le quérir et l'amener à Ninive où il ne voulait pas aller. Et là, il a obéi à Dieu. Et en un clin d'œil, les gens ont entendu ce que Dieu voulait qu'ils disent. Et les gens, en faisant pénitence, ont trouvé le bonheur. Et Jonas a été un peu déçu. Mais au fond, je suis sûr que dans le cœur de ceux qui finissent par être amenés par la main par Dieu pour aller prêcher le vrai bonheur, trouve un bonheur à nul autre pareil. Et j'espère que ce sera mon cas et le cas de chacun d'entre vous. Nous revenons donc à une rencontre spirituelle. Et avant de vous parler de Saint Matthieu, je voudrais vous parler du tout début du christianisme, au moment où le Christ a fait ses miracles, où le Christ a souffert sa passion et est ressuscité, à l'époque où l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, était murmuré ou bien proclamé sur les quais des ports ou au long des grandes voies romaines, dans les quartiers des villes, dans les villages. Eh bien, beaucoup d'hommes et de femmes étaient, en somme, des évangélistes, c'est-à-dire des évangélisateurs, des porteurs de la bonne nouvelle. Et on en est venu à considérer que certains avaient un don, un charisme pour cette annonce. Et finalement, bien, on voit les évangélistes prendre place dans la liste des fonctions diverses qui forment, qui établissent, qui construisent la communauté, le corps du Christ. Dans la lettre aux Éphésiens, les évangélistes sont précédés par les apôtres et les prophètes et suivis par les pasteurs et les docteurs. Et dans le livre des Actes des Apôtres, vous savez, c'est la première histoire de l'Église, si on peut dire, c'est juste après les Évangiles dans votre Nouveau Testament. Mais au chapitre 21, verset 8, Luc, qui est l'auteur de ce texte, parle aussi de Philippe l'évangéliste, et Paul recommande à Timothée de faire œuvre d'évangéliste. Trouve ça dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4. Dans la traduction grecque de la Bible, on trouve déjà le verbe « évangéliser », « annoncer une bonne nouvelle », comme on le trouve dans Isaïe. Et sans doute est-ce pour signifier l'accomplissement de ces oracles que le Nouveau Testament, dans les trois passages cités seulement, utilise ce terme. Ne désigne aucun des quatre auteurs d'évangiles écrits, Ce n'est que plus tard que l'appellation sera réservée à quatre hommes qu'on considérera comme les évangélistes, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans quelques minutes, j'aurai l'occasion de vous parler de Saint Matthieu, ce saint qui m'est très cher, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup lire Saint Matthieu. C'est un bel évangile et d'ailleurs, tous les évangiles sont magnifiques. Et Saint Matthieu, c'est un évangile tellement juif, que Paul Misraki, l'auteur de « Tu vois très bien, Madame la Marquise », et puis qui était l'auteur des chansons de Ray Ventura et ses collégiens, eh bien, se promenant sur les quais à Paris, a vu un évangile, l'a acheté, et s'est mis à lire ça, lui qui était juif, et a trouvé que c'était tellement juif, que ça lui parlait de tellement près, qu'il s'est converti. Et il est devenu catholique. Parlons maintenant de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Donc, évidemment, il a vécu au premier siècle. C'est une évidence. En grec, ça se dit Matthaios. Ça provient d'une forme araméenne incertaine. Il y a un dépanneur tout près de chez moi, quand j'y vais, je le vois qui apprend l'araméen. Il est araméen. Et son frère, araméen aussi, mais il n'étudie pas, lui, la langue araméenne. Ça semble s'écrire de façon très spéciale. Ils sont très peu nombreux, ceux qui parlent l'araméen aujourd'hui. Les descendants des araméens, la langue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous avoue que les deux frères qui travaillent au dépanneur, qui ont une trentaine d'années, sont extrêmement sympathiques. Ils ont un état de grâce naturel, on dirait. Et je comprends que Jésus ait parlé cette langue. Et ça signifie ce nom probablement « don de Yahvé ». Donc, c'est l'équivalent de « Deus dedit », c'était un nom qu'on voyait autrefois, « Dieu donné », ou « Théodore » même, ça veut dire la même chose. Matthieu exerçait le métier de publicain. Il faut bien spécifier. Suis-moi. Quand on le prend pour soi, on ne peut plus rester soi-même. On a le goût d'étudier l'Évangile, de suivre Jésus. Il s'est élevé, Saint Matthieu, puis il l'a suivi. C'est dans l'Évangile de Saint Matthieu, lisez-le, chapitre 9, verset 9, dans Matthieu. Quel beau récit. Saint Marc suggère, d'ailleurs, que le bureau pouvait être au bord de la mer. Saint Luc, lui, précise qu'il laisse tout. Il dit bien tout. Il laisse tout. Que ça doit pas être facile, hein? Je l'ai fait déjà quand j'étais jeune, j'avais 18 ans à peine. Et quand je vois des gens, là, qui possèdent tout, on en voit, là, ils ont maison, voiture, compagnie, tout. Et j'ai vu des chose à la télévision américaine, on passait en hélicoptère au-dessus du domaine immense possédé par quelqu'un qui avait tout laissé pour se faire moine, pour se faire prêtre séculier, et qui avait 55 ans. On se dit, c'est fantastique. Sa femme était morte, ses enfants élevés. Et Marc et Luc appellent Matthieu Lévi. Marc ajoute qu'il était fils d'Alphée. Lui-même se désigne, dans ce passage, par le nom de Matthieu. Adore. On sait qu'un même personnage pouvait avoir deux noms, hein? Simon-Pierre, Saul, Paul, et Lévi, Matthieu, donc. Lévi était le vieil homme, ou l'espèce de trafiquant, faisait partie des trafiquants pêcheurs. Matthieu a été l'apôtre. Oui. Pas Lévi, mais Matthieu. Matthieu, c'est l'apôtre, c'est l'évangéliste, c'est l'homme nouveau. Lévi, qui savait vivre, donna un festin pour prendre congé des siens, de ses connaissances. Sa conversion commençait par un acte de libéralité, comme celle d'Élisée, hein, qu'on a déjà vu. J'ai parlé de ça. Les pharisiens s'étonnaient de la condescendance de Jésus pour ce monde étrange, comme quand Jésus est allé chez Zachée, puis choisit Matthieu. C'est étrange, hein? Mais Jésus répond, Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. C'est consolant pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? C'est tout ce que les évangiles nous apprennent de Matthieu. C'est tout. Il est vrai que son entrée en scène est suffisamment belle. Hein? Suis-moi, puis il laisse tout. C'est fantastique. Son nom reparaît dans la liste des 12 apôtres. Il vient le 7e dans Marc et Luc, le 8e dans sa propre liste. Il est aussi le seul à s'y nommer Matthieu, le publicain. Le publicain. C'est probablement par humilité pour rappeler qu'il avait des origines qui n'étaient pas très mystiques. Il aurait pu faire, selon toute vraisemblance, un assez bon économe, mais le Seigneur lui a préféré Judas, comme on sait. Je vous ai dit que le premier évangile, c'est le premier évangile, celui de Matthieu, écrit très peu d'années après la mort de Jésus, très peu d'années d'après les dernières recherches. Il a été sans doute pensé en araméen pour les lecteurs palestiniens. On dit qu'il aurait été écrit en grec, mais je n'en suis pas si sûr. Et quand on lit certains grands spécialistes des dernières années, il faut lire ces gros bouquins savants, j'en ai lu, moi, c'est passionnant de voir comment on peut trouver que cet évangile a non seulement une tonalité juive, mais qu'il a probablement été écrit en araméen, en hébreu, quoi. Il suppose connu, d'ailleurs, le milieu des juifs, les coutumes juives. Et cet évangile vise à montrer l'accomplissement des vieilles prophéties de la Bible juive. Et l'évangile parachève quoi? La loi ancienne. C'est ce qui avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui avait amené Paul Misraki, il y a quelques 50 ans, au catholicisme. Lui, l'auteur des chansons de Réventura et des collégiens, et je vous rappelle cette chanson très connue, là. Tout va très bien, Madame la Marquise. C'est Paul Misraki qui a composé aussi beaucoup de musique de film et qui est profondément catholique. Je l'ai rencontré, nous l'avions interviewé à Rencontre. Quel homme merveilleux. Un homme délicat, raffiné, profondément et juif et chrétien à la fois. Comme cet évangéliste dont je vous parle, Matthieu, sans doute un juif et un chrétien à la fois. Il a des traits, cet évangile, très étranges. Matthieu accuse assez souvent les pharisiens. Sa façon de parler de l'Église aussi est particulière. Il affirme que l'Église est établie sur une fondation qui est Pierre. Il écrit afin de prouver que Jésus est le Messie. Et Matthieu expose sa doctrine dans des grands discours. Il n'y a pas de goût pour le détail concret, pittoresque, vivant. Il y a une chronologie minutieuse aussi. Il aime l'ordre. Il aime les ensembles harmonieux, logiques, équilibrés. Et le sermon sur la montagne, sous la main de Matthieu, suit un plan. Saint Matthieu, je vous l'ai dit, vient le 8e sur le catalogue des apôtres, dans les Actes, au chapitre 1. Alors, son apostolat chez les Juifs est très probable. Quant à une mission qu'on imagine hors de Palestine, on n'en sait rien. Mais rien de sûr. Des auteurs anciens du Moyen-Âge parlent de l'Éthiopie, même de la Perse ou de l'Iran aujourd'hui. D'accord, ici avec certains éléments qu'on retrouve dans des textes anciens, mais c'est difficile. Il y a même été question des anthropophages dans certains textes. Mais tout ça, c'est une confusion avec Saint Matthias, qui aurait fréquenté, lui, Matthias, un autre apôtre, des anthropophages, c'est-à-dire des cannibales, si vous voulez. Matthieu serait mort martyr, et c'est ainsi qu'il aurait complété sa vie, mais on n'est pas sûr. La notice du martyrologe romain a été empruntée à Usuard, dont je vous ai déjà parlé quelques fois, sauf quelques mots. Théodore le lecteur, qu'on retrouve dans la patrologie grecque, au tome 86. Vous savez, c'est immense, la patrologie grecque et la patrologie latine. C'est des centaines et des centaines de gros volumes. Eh bien, Théodore le lecteur, un des auteurs dont on a mis des écrits dans cette patrologie, c'est-à-dire cet ensemble des écrits des pères de l'Église, raconte que le corps, c'est très beau ça, raconte que le corps de Saint Barnabé, je vous en ai déjà parlé, qui avait accompagné Paul, fut trouvé à Chypre, sur l'île de Chypre, n'est-ce pas, dans la Méditerranée, avec sur la poitrine, écoutez bien ça, l'évangile de Matthieu écrit de la main de Barnabé. Imaginez son corps trouvé dans la tombe, avec l'évangile de Matthieu, que lui-même, Barnabé, avait écrit. C'est beau. Il serrait contre lui la parole de Dieu. Saint Matthieu est commémoré par les Grecs le 16 novembre. Et je vous fais grâce de tout ce qu'on nous enseigne sur les différentes choses à travers d'innombrables documents anciens. Et après quelques hésitations aux temps anciens, ben l'emblème du premier évangéliste, que l'on retrouve même à la cathédrale et dans bien des églises, mais c'est l'image d'un homme souvent ailé. Hein? Quand vous voyez les quatre évangélistes, c'est le personnage d'un homme ailé. C'est notre Saint Matthieu. Donc cet évangile a été écrit dans une atmosphère qui laisse percevoir une tension entre les Juifs devenus chrétiens et ceux qui demeuraient fidèles à la religion de leur père, au judaïsme. Il y a beaucoup de passages qui ont une portée polémique. Il s'agit de montrer, pour Saint Matthieu, que la voie de Jésus, le chemin de Jésus, le chemin qu'enseigne Jésus, loin d'être une infidélité au passé, en est le véritable accomplissement. Le Christ y est présenté comme le Seigneur. Et les épisodes où Marc le montre irrité ou attendri ne sont pas reproduits par Saint Matthieu. On ne trouve pas ce Jésus dans Saint Matthieu. Tout le livre de Matthieu, qui reprend la progression géographique de Marc, c'est-à-dire de la Galilée à la Judée, en passant par les régions voisines, c'est le drame de l'invitation au royaume. C'est ça l'évangile de Matthieu. Le drame de l'invitation au royaume, c'est-à-dire à la libération et à la paix intérieure. Il faut passer au Jésus identifié aux pauvres, que c'est avec les croyants que Jésus sera jusqu'à la fin des siècles. C'était sa fête hier, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais je veux vous en parler. Car c'est un martyr jeune. Les jeunes peuvent se modeler sur cet homme extraordinaire, ce Français exceptionnel, qui est né à Loudun. Un jour, je vous parlerai peut-être des Ursulines de Loudun, qui étaient, dit-on, possédées du démon. C'est très curieux. C'est dans le diocèse de Poitiers. Hein? Dans le diocèse de Poitiers, c'est là qu'est l'abbaye de Ligugé, la plus vieille abbaye française, qui est toujours là. Toujours là. Il faut y aller à l'abbaye de Ligugé. C'est très intéressant. Ce sont des bénédictins comme ceux de Saint-Benoît-du-Lac. Donc, Jean-Charles Cornet, c'est vraiment un missionnaire. Il a été missionnaire au Tonkin. Le Tonkin, c'est la partie nord du Vietnam. Hein? C'était un grand prédicateur, puis il est mort martyr en 1837. Ce Français est né de Jean-Baptiste Cornet et de Françoise Maillot, sous Napoléon Ier. Il est né le 27 février 1809. Son père était négociant. Il était même maire d'une petite ville qui s'appelle Moutère-Silly. C'était un solide chrétien que son père, qui d'ailleurs, tous les premiers vendredis du mois, ne se mettait même pas à table. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un morceau de pain, un verre d'eau, et ça lui suffisait pour se rendre jusqu'au lendemain matin après la messe, car il allait à la messe tous les jours. Il allait à la messe le samedi matin. Or, Jean-Charles Cornet, son fils, a étudié à Saumur, où il y a l'école de cavalerie. Jolie ville que Saumur. Puis, il est allé chez les Jésuites de Montmorillon, et en 1827, il est entré au séminaire de Poitiers. Donc, il a connu cette belle basilique, Notre-Dame-la-Grande, toute petite, avec un vieux, vieux baptistère qui est le plus vieux baptistère en France. Encore des belles choses à visiter pour comprendre nos origines chrétiennes. Donc, notre héros entre au séminaire de Poitiers pendant les vacances. Il vit au hameau de Lassé où son père avait une propriété. Puis là, il a fait un petit sermon sur l'excellence du blé et de la vigne qui sont les futurs corps et sang du Sauveur. Et ça a plu beaucoup à son père et aux gens qui l'ont entendu. Et 50 ans après, les anciens dans la ville déclaraient encore, lui, le petit jeune, il était mort, hein, martyr. Il disait, ah, le sermon du petit Cornet, il valait mieux que tous ceux des curés de Loudun. Ça, sympathique, un sermon d'un enfant. Le sermon du petit Cornet, il valait mieux que tous ceux des curés de Loudun. En 1830, bien Jean-Charles Cornet s'ouvre à ses parents de ses projets missionnaires, qui sont nés, semble-t-il, en 1829. Il avait 20 ans. Alors, ici, si on t'opposait assez violemment, pourtant c'était de bons chrétiens, ils ne voulaient pas entendre parler de leur fils qui s'en allait au loin, mais ils y ont consenti finalement. Il est parti pour le séminaire des missions étrangères rue du Bac à Paris. Je vous en ai déjà parlé, je ne cesserai pas de vous en parler. Allez là, vous serez émus devant la foi de ces hommes qui sont partis et qui sont morts pour Jésus-Christ au cours des siècles. C'est fantastique, c'est absolument émouvant. Il y a des tableaux, il y a des souvenirs, il y a des reliques. Il y a des livres, il y a des documents, il y a des feuillets, il y a des brochures, il y a toutes sortes de choses qui nous permettent de nous unir de cœur avec ces grands hommes, comme en particulier avec Jean-Charles Cornet. Or, notre Jean-Charles Cornet, futur voyageur, écrivait de Paris le 16 octobre 1830 à son père, il n'avait que 21 ans, « Je suis parti de Tours ». Tours, c'est un endroit d'où sont partis quantité de gens pour venir ici, dont Marie de l'Incarnation. Je suis parti de Tours mardi dernier à 2h et je suis arrivé ici, à Paris, mercredi à 6h du soir. Imaginez, c'est épouvantable. C'est un petit trajet de rien du tout, on fait ça en quelques heures, on fait ça en 1h30 aujourd'hui. Ça lui a pris plus de 24 heures. 28 heures, c'est épouvantable. La diligence lui avait coûté 75 francs, ce qui coûtait cher à l'époque, et le départ définitif fut brusqué. Sans adieu à sa famille, il n'y a pas eu le temps, car il lui a fallu remplacer à pied levé un confrère qui était tombé malade. Alors il a quitté Bordeaux en septembre 1831, à 22 ans plutôt, et il est arrivé à Macao, sur la côte chinoise, en mars 1832, il n'avait pas ses 23 ans. Il était destiné à Sichuan, au centre de la Chine du Sud. Mais les circonstances l'ont retenu au Tonkin, donc, comme je vous ai dit, dans le nord du Vietnam. « Tous les hommes sont nos amis », a-t-il écrit à ses parents, « quand on les aime tous. Et un homme qui cherche Dieu trouve sa patrie partout où il pourra lui plaire. » Il était très avancé pour 23 ans. Hein? Je répète de ces belles paroles d'un missionnaire. « Tous les hommes sont nos amis quand on les aime tous. Et un homme qui cherche Dieu trouve sa patrie partout où il pourra lui plaire. » Mais quand il est arrivé là, il tombait en pleine persécution et son apostolat a dû se limiter d'abord à changer chaque nuit de cachette. Et il écrivait en février 1834, « Mes pauvres pieds, peu accoutumés à ce manège, vont tout nus sur les pierres, ou bien ils s'enfoncent jusqu'aux genoux dans la boue. Comme tous les pays, et comme tout ce pays, c'est-à-dire n'est qu'un marais à cause de la culture du riz, on ne peut se servir de chaussures. » Et le 28 avril 1834, quelques mois plus tard, il a été ordonné prêtre par le vicaire apostolique. Il n'avait pas tout à fait ses 25 ans, mais bientôt il est tombé malade et ses yeux, sa tête le torturaient. Il écrivait « Me voilà devenu ermite et contemplatif au lieu de missionnaire. » On l'a invité à rentrer en France. Il a écrit « J'estime encore les souffrances d'ici meilleures que ma santé en France. » Il avait du courage. Et en 1837, disons 28 ans, il s'est fixé quelque temps au village, en partie chrétien, de Bauno, ou B-A-U-N-O, dans le moyen Tonkin, au sud, donc dans le centre du Vietnam, quoi. Au village, en partie chrétien, donc, de Bauno, et c'est là qu'il a été arrêté par suite d'une délation, quelqu'un qui l'a trahi. Il a dû subir la kang, c'est-à-dire un carquois, c'est-à-dire un machin qu'on lui met autour du cou. Puis, le carcan, le carquois. Puis, on l'a mis en cage. Il avait une très belle voix, hein? Ça l'a permis d'attirer des oreilles admiratives, chantait des chants exotiques, des chants français. Ça a amorcé un catéchisme à bâton rompu. Et un jour, qu'on lui demandait s'il n'avait pas peur de mourir, pour toute réponse, il a entonné la strophe suivante. C'est ce chant qu'il a chanté. « La religion nous appelle, sachons vaincre, sachons périr. Un chrétien doit vivre pour elle, pour la religion. Hein? Pour elle, un chrétien doit mourir. » Évidemment, ce sont les chants de l'époque. Ça nous semble un peu quétaine. Mais ce qui compte, c'est la qualité de l'âme qu'il chante. Hein? Et quand les mandarins ont vu que cette espèce de rossignol humain ne payait pas de rançon, on ne pouvait pas obtenir d'argent de lui, ils l'ont fait périr. Le décret portait le nommé Tan, de son vrai nom Cao Lang Ne. Cao Lang Ne, c'est-à-dire c'est une façon de prononcer Cornet, c'est son nom de famille, du royaume de Phulangsa. Phulangsa, c'est quoi? Ça, c'est la France. De la ville de Loudun, il venait de Loudun, est coupable d'être chef de secte fausse, caché dans le royaume pour fomenter une révolte. L'édit souverain ordonne qu'il soit taillé en pièces, puis que sa tête soit exposée 3 jours et jetée au fleuve, que cette sentence exemplaire fasse impression partout. Et voici donc la dernière lettre de notre captif à ses parents. « Mon cher père et ma chère mère, c'est aujourd'hui le 18 août 1837. Mon sang a déjà coulé dans les tourments et doit couler encore 2 ou 3 fois avant que je n'aie les 4 membres et la tête coupée. La pensée de la peine que vous ressentirez quand vous lirez ces détails m'a déjà fait verser des larmes. Mais aussi la pensée que je serai dans le ciel à intercéder pour vous quand vous lirez cette lettre m'a consolé pour moi et pour vous. Ne plaignez donc point le jour de ma mort. Il sera le plus heureux de ma vie par la fin qu'il mettra mes souffrances et le commencement qu'il sera de mon bonheur. Mes tourments même ne sont pas absolument cruels. On ne frappe que sur les fesses. Et on ne recommence une seconde fois que quand la première est guérie. » Un peu d'humour, hein? « Je ne serai point pincé et tiraillé comme M. Marchand. Et en supposant qu'on me coupe les 4 membres, 4 hommes le font en même temps et 1/5 coupe la tête. Je ne m'en apercevrai guère. Je n'aurai donc pas beaucoup à souffrir. Consolez-vous donc. Dans peu, mes souffrances seront terminées, je serai à vous attendre au ciel. Je suis avec l'affection profonde et le respect filial, mon cher père et ma chère mère, votre fils, en cage, le 18 août 1837, Jean-Charles Cornet. Le supplice eut lieu le 20 septembre, un mercredi des 4 temps. Notre captif écrivait à un missionnaire caché dans le pays. Dites-moi donc, quand tombent les 4 temps? C'est quoi ça, les 4 temps? Hein? Vous devez vous demander ce que c'est. C'était une série de 3 jours. Moi, j'ai connu ça dans mon jeune temps. Et ces 3 jours, ben, c'était le mercredi, le vendredi et le samedi, au début de chaque saison. C'est un début de saison de l'automne aujourd'hui, hein? Or, autrefois, on aurait eu mercredi des 4 temps, vendredi des 4 temps et samedi des 4 temps, ces jours-ci. Pendant ces 3 jours, on pratiquait, nous catholiques, le jeûne. Afin de célébrer les saisons, de nous apprendre à nous contrôler et avoir une discipline pour vivre ainsi l'année dans la sainteté. On le rappelait quatre fois dans l'année, aux saisons. Et c'est très beau parce que ça nous rappelait, à nous, chrétiens catholiques, que nous sommes mêlés au temps, à la terre, aux fruits de la terre, comme les semailles, les récoltes, et même à l'hiver qui repose les récoltes. C'était très beau. Je trouve que ça a quelque chose d'écologique, où on mêle le croyant à la nature. C'est dommage qu'on a laissé passer ça. Donc, Jean-Charles Cornet, écrivain missionnaire, écoutez bien ça, dites-moi quand tombent les quatre temps, car rien ne m'empêche de jeûner. Je fais toujours les jeûnes d'obligation. Il était emprisonné dans une cage. Il était prêt à jeûner. Ce martyr, Jean-Charles Cornet, a été béatifié par Léon XIII en mai 1900. J'espère qu'il a été canonisé, mais je n'ai pas pu le retracer. C'est le premier martyr français du Tonkin. C'est le marquis de Vauguyer qui écrivait « J'ai vu longtemps à l'œuvre dans le Levant. Les missionnaires de toute nationalité, je viens de consulter des observateurs impartiaux. Et l'avis est unanime. Le français seul réussit pleinement. » C'est un peu chauvin. Mais si notre sang était encore français à nous, qui sommes québécois de souche, je parle à ceux-là, je parle aussi aux immigrants français. Si nous avons encore ce sang dans nos veines, nous devrions être capables de vivre au même niveau que ces grands missionnaires. Qu'attend donc pour vivre comme eux? J'ai trouvé hier dans un beau petit livre du père Émile Legault qui dit ceci. Vous connaissez sans doute ces mots célèbres dans le Macbeth de Shakespeare. « La vie n'est qu'une ombre qui passe. Un pauvre histrion qui se pavane et qui s'échauffe une heure sur la scène et puis qu'on n'entend plus. Un conte dit par un idiot, plein de clameurs et de fureurs et qui ne signifie rien. » C'est du Shakespeare, ça. Or, le père Legault, Émile Legault, ajoutait, « On n'accepte pas cette définition si âprement désespérée. Quelque chose proteste au milieu de nous. Ce n'est pas possible que la vie soit cette pauvre chose, une rapide passade, le temps qui coule entre les doigts, comme une eau et qui ne va nulle part. Non, non, et non, notre vie a un sens. Oui, notre vie a un sens. Et on ne la trouve qu'en Dieu. » Émile Legault m'avait téléphoné pour me féliciter d'avoir mis dans le journal quand ma mère est morte qu'elle était entrée dans la lumière de Dieu. Ça lui avait plu. Il avait bien raison.